quand t'entends une sirène d'alerte à la bombe et que c'est la première fois que tu es sur un terrain de guerre, je peux te dire que c'est glaçant. Glaçant.
Bonjour, je m'appelle Yves Pulici, le journaliste que vous venez d'entendre, c'est Anthony Lebos. À Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, avec Maxime Deveau, il rencontre les victimes de la guerre et ceux qui la préparent. Bienvenue au service reportage de BFM TV. Salut Anthony, salut Maxime.
Salut Yves.
Où êtes-vous en ce moment ?
Alors là, on est dans la voiture, sur le parking d'un supermarché dans le centre-ville de Lviv. Et en fait, dans une heure, on va aller dans un hangar où on apprend à des civils qui n'ont aucune expérience militaire comment manier une arme. Donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre.
Vous êtes donc à Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. C'est quoi l'ambiance un peu qu'il y a autour de vous ?
Bah écoute, pour l'instant, c'est une ville qui est quand même assez épargnée. Tu l'as dit, on est à l'ouest de l'Ukraine, donc les combats sont vraiment à l'est, à Kiev, à Kharkiv, à Mariupol. Ici, il n'y a pas de guerre, en fait. Il n'y a pas de troupes russes, il n'y a pas de chars russes, il n'y a pas de bombes. Il y a des sirènes d'alerte à la bombe, mais il n'y a pas de guerre. Il y a une atmosphère de guerre, parce qu'en fait, toute la ville en fait, est rentrée dans un mood où il faut se préparer à une invasion russe. Et d'ailleurs, il y a une heure, il y a un mec qui nous disait, mais on ne sait pas si c'est une question de jour ou même d'heure, tout peut arriver. Mais là, pour l'heure, c'est vraiment une ville où c'est une sorte de base arrière, tu vois. C'est une base arrière de la résistance.
Ce matin, vous étiez dans une fabrique de costumes militaires, de treillis, de bonnets pour les résistants.
Oui, exactement. Et en fait, c'est un hangar qui, d'habitude, est une usine pour fabriquer des vêtements d'enfants. Et en fait, du coup, c'était un hangar qui s'est transformé avec
Postes de couturière.
Postes de couturière, ouais, il y en avait 24. Et on voyait beaucoup de femmes qui venaient bénévolement.
Tu vois, par exemple, elles étaient en train de coudre des bonnets, ou ce qu'on appelle ici des balaclavas, c'est-à-dire c'est des cagoules qui servent de camouflage. Elles fabriquaient aussi des sous-vêtements. Parce que tu sais, ce qu'ils nous disaient, c'est que, en fait, ils nous disent qu'à l'Est, les sous-vêtements sont jetés après 3-4 jours d'utilisation. Donc, tu as une énorme demande. C'est quand même assez concret. Tu as une énorme demande. Et donc, il fallait voir dans cet hangar le nombre de sous-vêtements qui étaient en train d'être cousus. Et ensuite, ils vont être acheminés vers l'Est avec des camions, des bus qui passent tous les jours par cet entrepôt, quoi.
Vous êtes à Lviv depuis une semaine. Avant, vous étiez en Pologne, à la frontière, là pour tourner des reportages sur les réfugiés qui arrivaient, qui quittaient l'Ukraine. Comment s'est passé votre périple de la Pologne jusqu'à Lviv ?
Écoute, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, nous, on prévoyait effectivement d'aller à Lviv, donc à l'ouest de l'Ukraine, pas aller au-delà parce qu'on n'a pas encore une expérience de guerre, mais on était effectivement en Pologne pendant 3 jours. Comment ça s'est passé ? Tout simplement, il fallait qu'on étudie aussi les différents postes frontières entre la Pologne et l'Ukraine pour savoir par où on pouvait passer avec une voiture. Parce qu'on avait une voiture avec nous. Et parfois, non seulement ils n'autorisaient pas les étrangers à passer pour une raison ou pour une autre, mais il fallait aussi qu'on puisse avoir une voiture pour être autonome. Donc on s'est rendu à un poste frontière, c'est le poste frontière de Zochin, qui est plutôt discret, qui est beaucoup plus petit que les plus gros postes frontières qu'on connaît entre l'Ukraine et la Pologne. On est passé. On a même rencontré un garde frontière qui, en nous autorisant à passer la frontière, nous a donné un petit sac. Il nous a dit, donnez-le à un enfant ukrainien. Et à l'intérieur de ce sac, il y avait
des chocolats
pour un enfant, etc.
On a donné nos passeports pour qu'il check notre identité, savoir qui on était. Et après 5 minutes, il est revenu en nous rendant nos passeports. Ouais. Et il avait un sac à la main et il nous a dit, faites attention à vous et surtout, ouais, donnez ça aux enfants ukrainiens qui en ont besoin.
Et ça, je complète ce que dit Maxime. C'est intéressant parce que quand on a passé 3 jours en Pologne avec les réfugiés et avec aussi les humanitaires qui les accueillaient, il fallait voir cette solidarité entre ces deux peuples, peuple frère, comme disent les Ukrainiens et comme disent les Polonais. Et en fait, ça venait confirmer ce sentiment de fraternité, de solidarité qui était décuplé avec cette guerre qui a commencé, tu vois. Et ça s'est même, j'ai envie de dire, arrêté à la frontière polonaise avec ce garde frontière. C'était le meilleur exemple. On est passé ensuite côté ukrainien. Et j'ai envie de te dire, la première image qu'on a vue, c'était des centaines de réfugiés qui attendaient à la frontière, avec des kilomètres et des kilomètres d'embouteillage.
De bouchons, tous les gens qui voulaient quitter l'Ukraine. Et c'est vrai que ça nous a vraiment marqué dès qu'on est arrivé en Ukraine avec Anthony.
Et on a fait 3 heures de route ensuite, checkpoints compris, pour arriver à Lviv. Et finalement, on est là effectivement depuis une semaine.
C'est votre première zone de conflit en tant que reporter. Qu'est-ce qui vous a marqué là depuis 10 jours entre la Pologne, l'Ukraine, à Lviv ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Quel témoignage vous avez entendu et qui vous a marqué chacun, Maxime et Anthony ?
Maxime, je pense que tu peux raconter le, le témoignage du père qui a retrouvé ses, ses deux filles en Pologne.
Ouais, c'est vrai, c'était le samedi, donc le deuxième jour où on était à la frontière avec Anthony. J'avais la caméra à la main et on était à côté de plein de personnes qui étaient à pied, qui attendaient que leurs proches passent la frontière. Et là, tout d'un coup, je vois un père de famille qui court après une voiture. Du coup, bah, j'avais la caméra, je me dis « vas-y, je vais le suivre ». Et tout d'un coup, après quelques mètres, la voiture s'arrête. On voit deux filles sortir et sauter dans les bras de ce père de famille.
La famille est enfin arrivée.
Très content.
Il a fallu 30 heures de route. Ils sont venus de la région de Kiev où les bombes tombaient. C'est la guerre. Je suis super content qu'ils soient arrivés. Je n'avais pas de contact avec eux parce que la communication s'était perdue. J'ai pensé à aller les chercher de l'autre côté. Il n'y a personne qui nous a renseignés.
Comment avez-vous vécu les premiers jours de guerre ?
J'étais ici alors que ma famille était encore en Ukraine, avec les premières bombes qui sont tombées. J'ai appelé au domicile de ma famille pour qu'ils préparent leurs affaires et qu'ils prennent la route. Pendant leur voyage, les bombes continuaient de tomber.
Et franchement, c'est des images qu'on n'oubliera jamais, jamais.
Moi, ce qui m'a marqué, c'était mercredi dernier, c'était au centre humanitaire de Lviv. C'est un immense centre humanitaire, 900 mètres carrés, enfin, c'est énorme. Et en arrivant ici pour faire un direct dans l'émission de Bruce Toussaint, on tombe sur une famille. Deux enfants, il y avait une mère de famille et puis la grand-mère. Et elles nous racontent leur histoire. Elles nous disent que la veille, elles étaient à Kiev, à la gare, au moment où une bombe a explosé à proximité. Et finalement, ils sont parvenus à prendre un train direction Lviv, mais dans un compartiment où il y avait 15 personnes, alors que normalement, tu as 4 personnes. Finalement, ils ont réussi à fuir Kiev. Et il y avait ce petit garçon, Nikon, qui avait ce petit regard rieur. Enfin, finalement, c'était un peu l'insouciance de l'enfance dans tout ce marasme et tout ce trouble-là. Il y avait ce petit regard de ce gosse comme ça qui venait jouer avec nous, avec notre micro, qu'on a capté aussi avec notre caméra. Et sa mère, Olena, qui était absolument émouvante en disant tout simplement qu'elle voulait simplement protéger ses enfants, mais qu'elle ne savait même plus où aller et que même à Lviv, ici en Ukraine, elle n'était plus chez elle. Ça, c'est vraiment tous ces visages de l'exode qu'on a rencontrés qui nous ont vraiment touchés.
Et qu'on n'oubliera jamais.
Leur témoignage aussi que vous arrivez à retransmettre à la télé. Justement, vous, comment vous travaillez à deux ? Anthony, toi, tu es rédacteur et Maxime, tu es JRI.
Bah, écoute, JRI, c'est journaliste reporter d'image. Et le but d'un JRI, c'est de raconter une histoire avec l'image. C'est de tourner des images pour raconter l'histoire du reportage.
Comment ça marche entre vous deux ?
Bah, le quotidien, c'est qu'en fait, on vit, on dort, on habite ensemble, on travaille ensemble depuis 10 jours. Donc, bon, forcément, déjà, ça crée des liens, évidemment. Mais comment on travaille ensemble, enfin, c'est vraiment un lien de confiance. C'est-à-dire que maintenant, après 10 jours, dans une zone de guerre, on sait à peu près comment l'autre réagit, ce qu'il fait, ce qu'il faut faire. On n'a pas forcément besoin de se parler sur des tournages parce qu'on sait ce que l'autre peut faire ou veut faire. Au-delà même du travail journalistique, on sait, en cas de sirène, d'alerte à la bombe, comment il faut réagir et ce qu'il faut faire. Et chacun est capable de rappeler à l'autre les premiers réflexes, tu vois. Je me permets de prendre cet exemple, Yves, mais par exemple, quand tu entends une sirène d'alerte à la bombe et que c'est la première fois que tu es sur un terrain de guerre, je peux te dire que c'est glaçant. Glaçant.
C'est le son qui est glaçant, c'est le bruit
son
de la sirène,
qui est glaçant. Parce que, bon, évidemment, on ne l'a jamais entendu, mais c'est glaçant. Donc, premier réflexe, il faut qu'en 30 secondes, tu sois sorti de la pièce où tu es, avec un sac. Et ça, on l'a appris avec Maxime, c'est qu'il faut avoir un sac avec à l'intérieur de l'eau, des vivres, une batterie externe de téléphone, si jamais tu devais passer la nuit dans un abri-refuge.
Une petite couverture aussi, des fruits pour de quoi manger. Voilà, enfin, c'est vraiment un nécessaire de survie. Parce que tu ne sais jamais après combien de temps l'alerte va être levée. Ça peut être 20 minutes comme plusieurs heures. Ou...
Et vu qu'on est à deux, on réfléchit aussi pour l'autre quand l'autre est un peu...
Comment on arrive à s'organiser pour filmer, pour avoir les images et pour avoir les témoignages ?
On est parti à deux de Paris, mais que ce soit en Pologne ou là, en Ukraine, on travaille avec Svitlana.
Qui est juste derrière nous d'ailleurs.
Qui est juste derrière nous. Et ce qu'on peut appeler ça dans le jeu de milieu, ça s'appelle un fixeur, fixeuse. C'est une personne locale qui connaît bien la zone et surtout qui nous aide à traduire les
interviews.
Les interviews, ouais. Parce que c'est vrai qu'ni Anthony ni moi parlons ukrainien, polonais ou...
Après, ce qu'on peut faire aussi, l'application Google Trad, ça marche, Dieu merci, ici aussi. Donc parfois, ne serait-ce que pour remercier quelqu'un, on écrit, tu vois, un petit merci pour tout et,
c'est vrai qu'on disait tu vois le sourire. On travaille à deux, mais c'est vrai qu'à là, on est vraiment à trois depuis qu'on est arrivé en Ukraine avec Slizana qui nous aide énormément.
Absolument. Et sans elle, on n'est rien, clairement.
Sans elle, on n'est rien.
Elle rougit.
Oui, j'apprécie beaucoup leur travail qui nous aide, qui aide à l'Europe de comprendre qu'est-ce que se passe en Ukraine.
Merci à toi surtout, Svetlana. Merci beaucoup. Hein.
Comment, là, par exemple, vous avez trouvé votre sujet pour que vous allez tourner cet après-midi dans le hangar où on fabrique des armes?
Grâce à Svetlana qui connaît des contacts, qui connaît les adresses. En fait, Svetlana, elle est guide ici. Donc chaque recoin, chaque feu de signalisation, elle connaît ici.
C'est pratique.
C'est un atout, c'est une chance de pouvoir avoir plusieurs relations et dans tous les domaines d'ailleurs de la ville. Hein. Là tout à l'heure, on était effectivement dans un entrepôt de couturière, mais avant on était dans un monastère. Nous sommes ici dans un monastère à Lviv, une ville encore épargnée par les combats, mais la résistance s'organise déjà. Regardez par exemple, ici on fabrique des filets de protection pour l'armée ukrainienne. Margot, 22 ans, étudiante, ses parents sont au front à Kharkiv pour défendre l'Ukraine.
Je m'inquiète beaucoup pour eux. Je ne veux pas rester chez moi. Et pour ne pas avoir peur, je viens aider ici et me mobiliser pour fabriquer ces filets de protection. Je dis à mes parents et aux militaires, soyez forts, soyez tranquilles. On est ensemble, on est unis et on fait tout pour vous aider.
C'est grâce à Svetlana. Elle connaît tout en fait. Donc ça nous facilite énormément le boulot.
Vous vous êtes déjà senti en danger? Est-ce que Svetlana, justement, elle apporte aussi des consignes de sécurité ou elle connaît les abris?
Alors oui, par exemple, quand on était en train de faire la visite de la ville, la première fois qu'on l'a rencontrée, Svetlana nous a emmenés au niveau d'une église et nous a dit qu'en fait, dans chaque église, il y a des abris qui ont été ouverts en fait pour se réfugier. On est rentré dedans.
Oui, c'est vrai que c'était pas plus tard qu'hier. On passait, du coup, on était en voiture, on passait dans un énorme checkpoint tenu soit par des civils, soit par des militaires armés. Et du coup, nous, on est tenté, comme on connaît pas trop, de faire des images et tout. Et Svetlana nous dit non, c'est marqué surtout, c'était marqué en ukrainien, ne pas filmer. Du coup, c'est vrai que sans elle, si on avait filmé, peut-être qu'on
aurait pu faire une bêtise.
On aurait pu faire une bêtise.
Est-ce que vous êtes senti en danger?
Il faut savoir que dans la région, pas à Lviv même, mais dans la région, il y a déjà eu deux bombardements. C'était la semaine dernière. Depuis, il n'y en a plus eu du tout. On se sent à moitié préservé. En fait, c'est difficile parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver, en fait. Et la population ici nous le dit. D'ailleurs, une fois, on était sorti d'un abri, 25 minutes après être resté dedans, et il y avait une dame qui est venue nous voir, qui nous a dit « So far, so good, jusqu'ici, tout va bien ». Ça résume assez bien la situation. Tu ne sais pas quand ça peut basculer. Tu sais pas quand ça peut basculer. Donc c'est pour ça que les gens ici sont dans un esprit de préparation, tu vois, d'une invasion russe. Tout peut arriver à tout moment. Ils te le disent, ils sont pas là en train de dire « bon, ça arrivera dans des semaines, etc. » Ils ont vu à quel point Kiev a été meurtri, Kharkiv a été meurtri. Ils ont peur que leur ville soit finisse comme ça, en fait. Finisse à moitié bombardée, à moitié détruite.
Là, ça fait 10 jours que vous êtes parti. Est-ce que vous savez quand est-ce que vous rentrez en France?
Ouais.
Ou c'est encore indéfini?
Écoute, pour tout rien de caché, moi j'avais demandé à rentrer parce que j'avais des impératifs familiaux. Du coup, moi je vais commencer à quitter l'Ukraine dès demain matin. J'ai une gérie qui s'appelle Caroline de Paris qui arrive du coup prendre ma suite.
Et moi je reste.
Anthony reste.
Voilà, il m'abandonne. Après 10 jours, il va me manquer, ce petit gars. Ouais, moi je reste encore une semaine parce que je pense qu'il y a encore plein de situations à raconter, plein de gens à rencontrer. Donc je vais rester encore une semaine. Je pense très honnêtement que je vais rentrer à partir du début de la semaine prochaine parce que déjà ça commence à fatiguer, très franchement. C'est dur psychologiquement parce que t'as pas de repos psychologique, même si nous ce qu'on vit n'est en rien comparable avec ce que vivent les Ukrainiens. Mais vu que c'est une première expérience de guerre, vu que ça fait 10 jours, 11 jours qu'on est, que c'est non-stop pour nous, il faut à un moment donné aussi apprendre à souffler, à se dire qu'on sera moins lucide que les premiers jours. Et puis, il y a tellement de talents à BFM TV, donc ils viendront.
Là, ce soir, vous tournez un nouveau reportage. Est-ce, tu sais un peu, Anthony, quels sont les prochains reportages que vous allez couvrir? Tu restes à Lviv?
On va rester à Lviv pour l'heure. Peut-être qu'on ira ensuite dans les banlieues ou dans les villes qui sont pas très loin, mais pas au-delà. pas au-delà. Pour les premiers jours, on a prévu d'aller dans une école de guerre, ou plutôt une école de self-défense, qui a ouvert ici à Lviv, où on voit par exemple des jeunes de 12 ans, comme des personnes plus âgées de 70 ans, apprendre des techniques de self-défense en cas de bagarre ou autre, j'en sais rien, en cas d'attaque. Voilà, en cas d'attaque. Donc on a ça de prévu. On va aller aussi dans une école où les enfants sont réquisitionnés aussi à l'effort de guerre. Ils cuisinent, ici c'est la spécialité, mais des raviolis, hein, c'est ça Svetlana? C'est des raviolis pour l'armée. Des raviolis, comment ça s'appelle?
Vareneke.
Et ils vont les envoyer en fait aux militaires qui sont à l'est. Donc à la fois résistance militaire et aide humanitaire aussi pour tous les réfugiés qui arrivent, parce qu'il y en a des dizaines de milliers qui arrivent chaque jour ici.
Merci beaucoup, bon courage, bon retour Maxime. Bonne continuation à Anthony et à Svetlana.
Bien, merci beaucoup Yves.
Merci Yves.
Merci d'avoir écouté cet épisode du Service Reportage, un nouveau podcast créé pour couvrir différemment la guerre en Ukraine. De nouvelles histoires arrivent, alors abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.